Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaraygal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit de Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Pour vous servir aujourd'hui, Grégory Pless, c'est moi qui vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme, on va revenir bien sûr sur l'élection présidentielle en France, à l'issue de laquelle Emmanuel Macron a donc été réélu. On va en parler et analyser ses résultats avec Romain Fati. Il est historien à l'université Flinders d'Adélaïde. Et puis, comme à chacune de nos émissions, il y aura également un point complet sur l'actualité sportive. Aujourd'hui, il est compilé par Christophe Mallet. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. C'est parti! À la une de l'actualité de ce mardi 26 avril 2022. En Australie, les travaillistes présentent aujourd'hui leur stratégie pour le Pacifique. Objectif, restaurer le rang de l'Australie dans cette région où elle a perdu beaucoup de terrain ces dernières années. L'Union européenne, pour sa part, s'interroge sur sa capacité à assurer sa transition énergétique. Un rapport paru tout récemment indique qu'elle pourrait être à court de métaux essentiels, comme par exemple le nickel, le lithium ou le cobalt, dès 2030. Et puis, aux États-Unis, le milliardaire Elon Musk a réussi son pari et fait l'acquisition du réseau social Twitter pour un montant de 44 milliards de dollars. Restaurer le rang de l'Australie dans le Pacifique, c'est l'objectif des travaillistes qui doivent annoncer aujourd'hui une série de mesures économiques, diplomatiques et militaires pour renouer le lien distendu ces dernières années avec les autres pays de la région. Le Labour prévoit ainsi d'attribuer 8 millions de dollars supplémentaires à la chaîne ABC afin d'accroître sa couverture de l'actualité dans la région. Et 6 millions et demi de dollars seront eux alloués pour ouvrir une école de défense du Pacifique destinée à former des militaires issus des nations voisines. Des annonces qui font suite aux déclarations hier du ministre de la Défense, Peter Dutton, qui, à l'occasion d'Anzac Day, a invité les Australiens à, je cite, « se préparer à la guerre face à la Chine qui accroît son emprise dans le Pacifique ». Des propos dénoncés par Penny Wong, la spécialiste du Labour des affaires étrangères. Elle estime que le soft power australien est plus efficace que les discours « va-t-en en guerre ».
What has he done to prepare us for war? I mean, we have 30 major defence projects running a total of 79 years late. We have 17 projects running, I think, $4 and a bit billion of a budget. We know that we're about to pay $5.5 billion for non-existing submarines. I mean, people talking about war is not the same as preparing for war and ensuring peace. And this is always a problem with Mr. Morrison and Mr. Dutton and this government.
Toujours à propos de la place de l'Australie dans le Pacifique, Mary Spain, la ministre des Affaires étrangères, a reconnu que la signature d'un pacte sécuritaire entre les îles Salomon et la Chine était un motif pour l'Australie de profonde inquiétude, mais elle a également assuré que les Chinois ne construiraient pas aux Salomon de bases militaires où l'Australie, assure-t-elle, reste le partenaire sécuritaire prioritaire. Par ailleurs, il lui a été reproché en tant que chef de la diplomatie australienne de ne pas s'être rendu à Honiara pour tenter d'empêcher la signature de cet accord avec la Chine. Elle s'est défendue à ce sujet sur ABC en expliquant qu'elle était en contact régulier et étroit avec les membres du gouvernement salomonien.
We have a range of engagements and connections with the Solomon Islands. I am in touch with the Foreign Minister. I have spoken with him at length multiple occasions. The Prime Minister has been in contact with Prime Minister Sogavare, as you would expect. The head of the Office of the Pacific has visited the Solomon Islands in January, in February and in March. These are strong and positive relationships.
À Sydney, le Parti libéral est toujours empêtré dans la polémique autour de Catherine Daves, cette candidate désignée par Scott Morrison pour mener campagne dans la circonscription de Warringah. Récemment, c'est l'ancien Premier ministre Malcolm Turnbull qui lui aussi estime que l'investiture devrait lui être retirée. Il considère en outre que les propos de Catherine Daves concernant les personnes transgenres sont tout simplement inacceptables. Voici ce qu'il a dit sur ABC.
They're hateful comments that seem to be designed to whip up animosity and hatred against some of the most vulnerable people in our community. I think they're completely unacceptable, and I agree entirely with what Matt Keane has said about it. She shouldn't have been endorsed and she should be disendorsed, but she is Scott Morrison's pick. And the members of the Liberal Party in New South Wales don't have any say in pre-selections, you may have noticed, of late. They're all in the hands of Mr. Morrison.
Pour clore ce chapitre sur la politique australienne, le leader des Verts, Adam Hunt, est aujourd'hui en Nouvelle-Galles du Sud pour soutenir la candidate Mandy Nolan. Elle se présente dans la circonscription de Richmond, récemment dévastée par les inondations. Et au cours de ce déplacement, il est prévu que Adam Hunt annonce une mesure en vertu de laquelle les entreprises qui exploitent du gaz et du charbon pourraient être tenues pour responsables devant la justice des dégâts causés par des catastrophes naturelles provoquées par le changement climatique. Les Verts annonceront également aujourd'hui des subsides supplémentaires accordés aux victimes des inondations, en l'occurrence une enveloppe de 190 millions de dollars dans la circonscription de Richmond. En Ukraine, hier, aucun corridor humanitaire n'a pu être mis en place à Mariupol, et ce alors que les Russes avaient pourtant annoncé un cessez-le-feu destiné à permettre l'évacuation des civils, pour la plupart actuellement réfugiés dans une aciérie qui s'appelle Azovstal. Mais la proposition russe a été rejetée par la vice-première ministre ukrainienne. On fait le point sur la situation avec Martin Chabal pour RFI.
La Russie promettait d'arrêter les combats autour de l'usine d'Azovstal et de laisser partir les femmes, les enfants et le personnel de l'usine dans la direction de leur choix. Une destination qui avait été au cœur des négociations début mars, quand le Kremlin voulait ouvrir des couloirs humanitaires vers la Russie et la Biélorussie. Mais malgré tout, les négociations bloquent toujours. Pour l'Ukraine, l'offre russe ne garantit pas la sécurité des civils. La population doute de l'armée russe sur le respect des règles autour de ces couloirs humanitaires. Selon certaines ONG sur place, il serait déjà arrivé que des corridors soient bombardés alors même que des civils étaient en train de fuir les combats. Et cette stratégie russe a déjà été observée en Tchétchénie ou en Syrie. C'est aussi difficile de contraindre toute la population de quitter la ville. Kiev redoute sûrement que l'ouverture de ces couloirs soit une autorisation pour les Russes de bombarder la ville et prendrait le risque de toucher les civils restés sur place malgré tout. Pour l'Ukraine, l'ouverture de ces couloirs pourrait signer la capitulation de Mariupol et la fin de la résistance dans l'usine d'Azovstal.
Environnement maintenant, assurer sa transition énergétique c'est bien, mais encore faut-il en avoir les moyens. Un rapport paru tout récemment s'interroge ainsi sur la capacité de l'Union européenne à disposer de quantités suffisantes de métaux dits critiques, indispensables pour réduire sa dépendance aux hydrocarbures, comme par exemple le lithium, le cobalt ou encore le nickel. Or, d'après ce rapport, l'Union européenne pourrait faire face à des pénuries dès 2030. Pour Radio France Internationale, on fait le point avec Louis Augry.
L'Union européenne veut se tourner vers les énergies vertes. Et ça demande beaucoup de métaux différents. Les chercheurs de l'université KU Leuven ont calculé que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, eh bien l'UE aura besoin par exemple de 35 fois plus de lithium qu'aujourd'hui. Il faudra aussi 26 fois plus de terres rares, 2 fois plus de nickel et plus d'aluminium. Des métaux indispensables pour construire nos équipements de demain, des voitures électriques aux rotors d'éoliennes en passant par les panneaux solaires. Le risque, c'est de remplacer notre dépendance aux hydrocarbures par une autre dépendance à ces métaux. Pour l'aluminium ou le nickel, l'Europe compte beaucoup sur la Russie qui est un gros exportateur mondial et la Chine ou l'Indonésie devraient dominer le raffinage de métaux pour batteries dans les 10 prochaines années. Alors, le rapport est formel, il faut construire très vite ses propres chaînes d'approvisionnement pour être moins dépendant d'ici 2030. Mais il y a une bonne nouvelle quand même, contrairement aux combustions fossiles, les métaux, eux, sont réutilisables et le manque européen pourrait aussi être couvert par ce recyclage. D'ici 2050, les métaux recyclés pourraient équiper les trois quarts des batteries des véhicules construits en Europe.
Il a finalement réussi son pari. Le PDG de Tesla et actuel homme le plus riche du monde, Elon Musk, vient de racheter le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars. Un réseau social sur lequel il dit vouloir étendre la liberté d'expression. Il se bruisse qu'il pourrait permettre à l'ancien président Donald Trump de revenir sur Twitter, dont il avait été évincé après l'assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021. Sur ce sujet, Jen Psaki, la porte-parole de la Maison-Blanche, n'a pas souhaité s'exprimer directement. Elle a toutefois rappelé les inquiétudes de la présidence américaine à propos de la capacité des réseaux sociaux à diffuser des fausses informations et aussi à manipuler l'opinion.
Our concerns are not new. We've long talked about, and the president has long talked about his concerns about the power of social media platforms, including Twitter and others, to spread misinformation, disinformation, the need for these platforms to be held accountable. Well, I know you tried again. I appreciate that. I still don't have a specific comment on this specific transaction. And at this point, we don't have any sense of what the policies will look like.
Au lendemain de sa réélection, Emmanuel Macron a reçu de nombreux messages de félicitations de la part des dirigeants du monde entier. En France, en revanche, les formations politiques ont déjà les yeux tournés vers la prochaine échéance, les élections législatives qui auront lieu au mois de juin et que certains considèrent comme une sorte de troisième tour de cette élection présidentielle. En tout cas, pour les trois grands blocs qui ont émergé à l'issue de ce scrutin présidentiel, c'est une nouvelle campagne éclair. Elle va durer 6 semaines qui démarre. On fait le tour de cet horizon avec Pierre Olivier pour RFI.
Après sa réélection, Emmanuel Macron doit maintenant transformer l'essai en obtenant la majorité à l'Assemblée nationale. Mais comptable d'un bilan qui a cristallisé les oppositions, c'est désormais en rassemblant le plus largement possible à droite comme à gauche qu'il peut espérer l'emporter. À droite, c'est le bloc national qui sort renforcé par cette présidentielle, avec deux partis, le Rassemblement national de Marine Le Pen et Reconquête d'Éric Zemmour, qui, s'ils parviennent à s'unir aux législatives, rêvent de devenir la première force d'opposition. Laminé au premier tour, les Républicains pourraient en effet laisser un vide béant à droite de l'hémicycle et jouent désormais leur survie tiraillée entre l'AREM et les appels à l'union des droites d'Éric Zemmour. À gauche enfin, les Insoumis comptent se servir de ces législatives comme d'un troisième tour avec un objectif, porter leur leader Jean-Luc Mélenchon, troisième homme de cette présidentielle, comme premier ministre de cohabitation. Un scénario impossible sans une majorité absolue à l'Assemblée. Des tractations ont déjà commencé avec les écologistes, les communistes et certains socialistes. Mais avec seulement 17 députés actuellement, il faudrait plus de 250 sièges supplémentaires aux Insoumis pour espérer une cohabitation.
Et je vous le disais en introduction de cette émission, nous allons revenir très en détail sur l'élection présidentielle d'ici quelques minutes. Je vous demande donc de vous montrer encore un petit peu patient. Pour l'instant, on termine ce journal avec un point sur la météo du jour en Australie. Une météo globalement humide aujourd'hui puisque de Perth à Sydney, en passant par Adelaide, Melbourne et Canberra, le temps aujourd'hui est nuageux et pluvieux, tandis que les températures oscillent dans ces villes entre 21 et 23 degrés, 23 degrés à Sydney et Melbourne notamment. Des averses balaient aussi aujourd'hui le ciel de Brisbane où le thermomètre affiche 24 degrés. En revanche, et c'est un peu une exception aujourd'hui, il fait très beau et très chaud à Darwin avec 34 degrés prévus ce mardi.
Et journal des sports et on commence bien avec du cyclisme. Et c'était la course de Liège-Bastogne-Liège en Belgique ce week-end. Une course magnifique avec un triple podium belge d'ailleurs. Première fois depuis 1976 qu'on avait un podium 100% belge sur cette course donc. Avec la victoire de Remco Evenepoel, la star du cyclisme belge. L'une des stars du cyclisme belge hein, parce que le cyclisme belge est vraiment en essor et vit vraiment une nouvelle ère donc avec des champions. Donc Remco Evenepoel, 22 ans, 26e victoire professionnelle. Vraiment, on le compare à un futur petit Eddy Merckx en tout cas. Donc voilà, victoire de Remco Evenepoel. Fait marquant également, une énorme chute a eu lieu dans le peloton. Et cette énorme chute, elle a coûté énormément au champion du monde, Julian Alaphilippe, qui s'est retrouvé bloqué 3 mètres plus bas que la route dans un ravin, surtout bloqué contre un arbre. Et le bilan est assez lourd. Il a plusieurs côtes cassées, une omoplate cassée et surtout un énorme hématome au poumon, ce qui met bien entendu en jeu sa participation dans des courses proches, comme bien entendu le Tour de France. Et d'ailleurs, on écoute Romain Bardet, l'autre coureur français, qui l'a trouvé par terre, qui a été le premier à venir à son secours. Romain Bardet.
J'ai eu très peur pour Julien. Je tombais de son côté avec lui. Je l'ai vu 3 mètres en contrebas et il me dit « je peux pas bouger ». Et personne n'est arrivé. Ça a duré une éternité. J'avais vraiment peur. Je voyais qu'il avait du mal à... Je pouvais plus bouger. Et non, c'était vraiment des scènes qu'on veut pas voir en vélo.
Vous êtes resté avec lui jusqu'au bout, c'est ça?
J'ai essayé de... Je veux surtout pas le toucher dans ces cas-là. J'ai essayé d'appeler du monde, mais les voitures étaient bloquées. Ça a mis une éternité. C'est peut-être que 4-5 minutes, mais j'ai cru. Tu vois, c'était vraiment choquant comme scène. J'ai...
Je me sens encore sous le choc. Vous avez que
non,
vous
c'est... Finir. Ça reste du vélo. Non, j'ai pas fini.
Vous avez pas fini?
Ça m'a vraiment... Je fais pas du vélo pour vivre des... Voilà, il y avait des mecs partout par terre. C'était plus une course, alors.
Comment ça se fait? Il y a une nervosité particulière?
Non, c'est tombé juste devant moi. C'est voilà, deux mecs qui se sont accrochés, personne n'a voulu freiner. Et on était à 80 à l'heure et quand on tombe à 80 à l'heure, personne ne s'arrête. Donc c'était. La dernière fois que j'ai eu cette sensation-là, c'est sur le Tour de France quand William Bonnet était tombé. C'était la même scène. Et voilà. Je suis encore sur l'émotion, excusez-moi, parce que c'était vraiment.
Non, vous laissez.
Merci Romain.
Merci.
Voilà, témoignage assez éloquent de Romain Bardet, encore sous le choc après donc cette chute de Julian Alaphilippe. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le cyclisme aujourd'hui. On parle maintenant de football et le Paris Saint-Germain qui est champion pour la 10e fois. Champion, mais peut-être sans briller, Martin Guez.
Oui, vraiment, un point c'est tout. Nous avons un champion, mais c'est tout sauf une sensation dans un match étrange, une saison sans grand relief. Voilà, une rencontre plutôt à l'image de ce qu'a proposé le PSG cette année, assez inconstant, capable de petites accélérations, mais qui n'a pas tenu la longueur. Encore une fois ce soir face à de très vaillants Lensois, une première période quasiment anecdotique ce soir, quelques occasions pour Kylian Mbappé, le chouchou du public qui a été bien lancé mais qui a toujours frappé au-dessus, 0-0 à la mi-temps, des sifflets sont tombés quand même des travées du Parc des Princes. En deuxième c'était un petit peu mieux, on a eu une frappe cadrée signée Mbappé lui toujours, et puis un carton rouge pour ces vaillants Lensois, je le disais, Kevin Danseau qui reçoit un deuxième jaune un peu avant l'heure de jeu sur un tac sur Neymar. Ça a permis de décanter un petit peu la situation. Seule l'étincelle de la soirée, elle était signée du cocardier Lionel Messi qui a tiré sa spéciale, une frappe du gauche dans la lucarne des 20 mètres. Ça a permis aux techniciens du PSG de ne pas avoir installé ces feux derrière les buts pour rien. C'est la seule fois du match qu'ils ont pu tirer cette espèce de dispositif pyrotechnique prévu pour le sacre. Voilà, on jouait la 70e minute, un très beau but signé Messi. On s'était dit voilà, Paris va tout de même l'emporter face à ces Lensois à 10, mais que nenni mon ami, Corentin Jean à la 88e, Corentin Jean pas un immense joueur, voilà, qui récolte quelques minutes de par-ci par-là, un ancien de Troyes, un ancien de Monaco. Bah, il était à la conclusion d'un contre, il a marqué un partout entre ces Parisiens et ces Lensois. On l'a dit, un point c'est tout, ça a suffi pour passer dans un trou de souris pour ce vieux matou rabougri qui était le PSG ce soir et qui a surtout ronronné, qui s'est contenté donc de ce petit résultat.
Martin Guez pour RFI. Allez, pour conclure ce journal des sports, on va reparler du fait que le tournoi de Wimbledon de tennis est décidé de bannir les joueurs russes et biélorusses de son tableau à cette année édition pour les raisons de la guerre. Mais cela pose quand même pas mal de questions éthiques vu que certains de ces joueurs, notamment Daniil Medvedev, le numéro 1 russe et surtout l'ancien numéro 1 mondial, numéro 2 mondial à l'heure actuelle, Daniil Medvedev, qui sera donc banni de Wimbledon. et c'est pas forcément bien reçu dans le monde du tennis. On écoute Jean-Baptiste Guégan, un spécialiste de la géopolitique pour le sport.
On a du mal à comprendre pourquoi un tennisman, une tenniswoman qui a apporté son soutien à la cause ukrainienne et qui a demandé la paix puisse être sanctionné simplement parce qu'il est russe. On voit derrière une influence politique notable et majeure avec une radicalisation de la prise de sanctions, une radicalisation dans un sport qui était plutôt resté à l'écart des sanctions et un tournoi de Wimbledon qui est finalement obligé de suivre, là où par exemple Roland-Garros probablement ne le fera pas. On est face à une situation qui est assez étonnante et qui marque la politisation du tennis et plus généralement, à l'occasion de cette crise qu'est la guerre en Ukraine, une politisation du sport qu'on ne voyait pas aussi nettement ces derniers temps.
Jean-Baptiste Guégan, donc spécialiste de la géopolitique pour le sport. Voilà, ça conclut notre journal Les Sports pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans le reste du programme. A tout de suite.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et on vient d'écouter une chanson qui s'appelle Billie. Elle est interprétée par une jeune chanteuse qui monte. Cette chanteuse, elle s'appelle Amoué et c'est donc son dernier titre. Il est sorti le mois dernier. On revient maintenant donc, comme je vous l'avais promis tout à l'heure, à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a donc été réélu. Mais que faut-il retenir de ce scrutin et quels sont les défis qui attendent le président dans les semaines et les mois à venir? On en parle avec l'historien Romain Fati. Il est donc enseignant à l'université Flinders à Adélaïde. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, bien entendu, on va revenir sur le second tour de l'élection présidentielle en France, à l'issue duquel Emmanuel Macron a donc été réélu. Pour analyser ces résultats et parler de la suite, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Romain Fati, professeur d'histoire à l'université Flinders d'Adélaïde et également chercheur associé au Centre d'histoire de Sciences Po. Bonjour.
Bonjour et merci de nous recevoir.
Alors, Monsieur Fati, donc Emmanuel Macron a été réélu, plus largement d'ailleurs que ce que ne prévoyaient ces derniers jours les instituts de sondage, 17 points d'avance sur Marine Le Pen. Ceci étant dit, Marine Le Pen recueille quand même plus de 41% des voix, c'est un score historique pour le Rassemblement National. Est-ce que, du coup, pour Emmanuel Macron, on peut véritablement parler de victoire écrasante?
Alors, victoire écrasante, certainement pas. Victoire, très clairement, 58% est un score très honorable, malgré le fait que ce soit vis-à-vis du Front National, enfin du Rassemblement National. Écrasante, non, puisque ce qui est inquiétant, c'est que l'abstention a été entre 29, 30, voire un tout petit peu plus, 30%. Un tel niveau d'abstention au second tour, ça ne s'est pas vu depuis 1969. Donc c'est inquiétant parce que vous avez 30% du corps électoral français qui soit n'était pas intéressé ou soit a choisi volontairement de ne pas s'exprimer par rapport au choix qui était proposé. Donc effectivement, 58% contre 42% pour Madame Le Pen, mais un tiers du corps électoral quasiment ne s'est pas déplacé. Donc, d'une part, ceci n'est pas une victoire écrasante. D'autre part, est-ce qu'on peut parler de victoire quand on se présente contre le Front National? Est-ce un vrai choix? Et ce que je dis n'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais le Rassemblement National est l'héritier direct du Front National. Un parti dont certains membres fondateurs ont été condamnés pour xénophobie, racisme, déni de l'Holocauste, homophobie, et j'en passe. C'est très très inquiétant de voir que un Jean-Marie Le Pen contre Monsieur le Président Jacques Chirac il y a 20 ans On avait un score de 84% pour M. Chirac, puis en 2017, un score de 66% pour M. Emmanuel Macron, et aujourd'hui, en 2022, un score de 58%. Ça commence réellement, on voit que le Front National a progressé, pardon, le Rassemblement National a progressé énormément. Donc, est-ce une victoire pour M. Macron ? Oui, écrasante. Non. Et c'est quelque chose d'inquiétant, parce que dans les 5 ans à venir, il va vraiment falloir travailler pour, disons, récupérer un électorat qui est polarisé. Parce que c'est une des leçons de cette élection de 2022, et c'est probablement celle qui, personnellement, m'inquiète le plus, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, on a plus de votants qui ont voté pour les extrêmes que pour les partis traditionnels, entre guillemets. C'est-à-dire que si nous accumulons les partis d'extrême gauche, il y en avait 4, et d'extrême droite, il y en avait 3, nous arrivons à plus de 40% des votants. Or, si nous additionnons les partis de gauche traditionnels, le PS, Europe Écologie Les Verts, La République En Marche, au centre et au centre droit, et le parti de Mme Pécresse, Les Républicains, qui sont les partis traditionnels modérés, seuls un peu plus de 30% des votants ont soutenu ces partis au premier tour. Donc pour la première fois, on voit très clairement que l'électorat se divise plus dans les extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite, que sur les partis, comme j'ai dit, traditionnels, surtout modérés en réalité.
Alors, sur ce dernier point, du fait de l'émergence, il y a 5 ans maintenant, d'un parti centriste qui a en gros complètement avalé les partis de gouvernement traditionnels, le PS, une partie des Verts, une partie des Républicains, est-ce que ça n'est pas logique au final que les seules alternatives à ce parti centriste qui a tout avalé, ce soit l'émergence de partis à la frange, des deux côtés, donc à la fois à gauche et à droite ?
Vous avez raison, mais je qualifierais ça en disant raison d'une certaine mesure. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'offre politique semble réduite et si le centre cannibalise, entre guillemets, la partie centriste de la gauche et centriste de la droite, effectivement, ça ne laisse plus beaucoup de place pour l'existence de ces partis de pouvoir, comme vous avez dit, de gouvernement. Ce qui est un problème, puisque ça polarise l'échiquier politique, puisque certains vont s'affirmer encore plus à gauche ou alors encore plus à droite. Bon, ça, c'est la résultante d'une logique, effectivement, que vous avez présentée. Mais en plus de cette logique, je pense qu'il y a vraiment, chez une partie de l'électorat, une logique assez claire de radicalisation, soit vers l'extrême gauche, soit vers l'extrême droite. Parce que si le Parti socialiste, si les Républicains continuaient à attirer l'électorat, il n'y a pas de raison pour que ces partis-là se fassent cannibaliser par un parti du centre, a priori. Sachant qu'en France, la division gauche-droite est profondément marquée dans les esprits, s'est ancrée en nous depuis la Révolution qui a structuré ce paysage politique français. Donc il y a effectivement le jeu du parti La République En Marche qui, de fait, prend des voix sur sa gauche et sur sa droite, mais il y a aussi une partie des Français qui exprime d'autres attentes. Et c'est probablement ça qui va être le plus délicat à gérer. Parce que des partis du centre, ça va, ça vient. Il y en a eu dans l'histoire de la 3e, de la 4e, de la 5e République. C'est pas un souci pour la démocratie. Ce qui est un souci, c'est quand vous avez une partie du corps électoral qui ne se reconnaît plus dans les valeurs démocratiques de la nation française. Là, effectivement, ça devient un réel enjeu, un enjeu national. Et il est du devoir du corps politique du centre, hein, que ce soit M. Macron, que ce soit le Parti socialiste ou la droite républicaine, que de se ressaisir et de proposer une offre politique qui séduise les Français et les sortes de cet extrémisme, de cette radicalisation politique.
Un autre point sur lequel je voulais revenir, vous évoquiez tout à l'heure le niveau très élevé de l'abstention pour ce second tour et pour un second tour de l'élection présidentielle en général. Et cette abstention très forte, combinée au fait que Marine Le Pen a quand même recueilli plus de 40% des voix. Est-ce que Emmanuel Macron ne va pas se retrouver tout de suite face à un problème qui est que sa légitimité va être remise en cause? Vous le disiez, il n'était pas contre n'importe quel adversaire, il était contre un adversaire d'extrême droite. Et sous cet angle de vue, au final, 58%, ce n'est pas tant que ça. Et donc, est-ce qu'il ne va pas se retrouver avoir en permanence sa légitimité remise en cause?
Alors, je vais répondre à votre question en deux temps, parce que je pense qu'il y a deux faces de la médaille. Vous aurez ceux qui, effectivement, vont dire « Quelle légitimité a un président élu face à un parti d'extrême droite ?» Qui plus est, « Quelle légitimité a un président élu face à un parti d'extrême droite ?» à 58% quand 30% du corps électoral s'abstient. À cela, vous avez un autre camp qui va répondre « Monsieur Macron a été élu par la résultante d'un processus démocratique dans lequel les Français pouvaient choisir parmi 12 candidats. Il y avait 12 candidats au premier tour. Alors certes, tous n'avaient pas les mêmes chances de réussite, mais c'est le principe d'une démocratie. C'est-à-dire qu'on vote pour ce que l'on considère être le plus à même de mener le pays vers le succès et la réussite, mais qu'on accepte le principe du deuxième tour. C'est pas le vote préférentiel à l'australienne, c'est pas un vote une fois, c'est des élections au suffrage universel direct en deux tours. Si ce modèle ne convient plus, alors il faut le repenser. Et ça, c'est pas exclu. Ça fait assez longtemps qu'on parle de 6e République. Se pose la question de comment on élit le président. D'ailleurs, certains candidats de gauche lors de cette élection proposaient de revoir le mode d'élection du président de la République pour justement qu'on se focalise plus sur les institutions démocratiques, sur le Parlement, plutôt que l'élection d'un homme ou d'une femme. Parce qu'après tout, effectivement, le président ou la présidente de la République en France a énormément de pouvoirs qui lui sont octroyés par la Constitution. Mais dans la pratique, ce qui compte et ce qui est très important, c'est l'Assemblée nationale. Et le Sénat, évidemment, dans une autre mesure, mais l'Assemblée nationale. Et donc, je reviens pour répondre à votre question sur cette idée de légitimité. La légitimité de Monsieur Macron, on pourra être fixé dessus une fois que les élections législatives auront eu lieu en juin.
Allez, viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps.
13h48 sur SBS en français, on écoute un classique de chez classique, « Je t'emmène au vent », le morceau phare du groupe Louise Attaque, un morceau qui fête cette année ses 25 ans. Allez, tout de suite, pour la dernière partie de l'émission, je vous propose d'écouter le deuxième épisode, la deuxième partie de notre échange avec l'historien Romain Fati. On revient donc encore une fois sur l'élection présidentielle, mais cette fois-ci, on s'intéresse plutôt à l'après, et notamment les élections législatives de juin prochain. Vous parliez des législatives, c'était le point suivant que je voulais aborder. Elles auront donc lieu dans un mois. Et justement, je m'interrogeais, quelles sont d'après vous ces chances que son parti l'emporte aux législatives, sachant que, encore une fois, il est certes arrivé en premier lors du premier tour, il a gagné le second tour, mais avec une bonne partie de voix d'électeurs de gauche, auxquels il n'a finalement donné qu'assez peu de signes, qu'il allait un petit peu amender son programme pour l'adapter peut-être aux attentes d'une partie de l'électorat qui ne s'était pas portée sur lui vers le premier tour. Est-ce que une possibilité de cohabitation dès le début de son mandat est possible, d'après vous?
Dans un régime démocratique, tout est possible. En réalité, si l'on considère les options, alors déjà, il faut rappeler que le président lui-même a reconnu lors de son discours hier soir qu'effectivement, il y avait beaucoup de Français qui s'étaient abstenus. Il a aussi reconnu qu'il va falloir gouverner pour tous les Français, et il a aussi reconnu que voilà, être élu par rapport vis-à-vis de l'extrême droite, ça pose certaines questions. Donc, je pense que M. Macron est tout à fait conscient des enjeux qui vont se poser pour son second mandat, qui sera probablement et paradoxalement le plus difficile. Vis-à-vis des élections législatives, Ça va peut-être vous paraître très vieille France et très gaulliste, je vais vous dire, mais bon, les Français probablement préféreront l'ordre et le progrès. Et par ça, je veux dire que de manière générale, quand on, en tant qu'historien, moi je suis porté à regarder ce qui s'est passé par le passé, généralement, on octroie au président sa majorité, d'une part. Donc il y a premier point, on donne généralement la majorité au président que l'on a élu. Deuxième point, est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir 42% des suffrages exprimés pour Mme Le Pen? Est-ce qu'on pourrait avoir une chambre à l'Assemblée nationale avec des députés du Rassemblement national? La réponse est non. En 2017, souvenons-nous-en, Mme Le Pen avait recueilli 34% des suffrages et pourtant il n'y avait eu que... il y avait eu 6 députés sur, quand même, 577. Autrement dit, le Front National en France n'est pas une force politique institutionnelle.
Alors, je suis d'accord, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais le premier élément, c'est qu'en 2017, effectivement, il y a toute une vague de députés En Marche qui ont été élus. Beaucoup étaient des novices en politique. Et parmi ceux-ci, au final, 5 ans après, il y en a quand même très peu qui ont émergé, qui se sont distingués. Donc, pas sûr qu'ils soient reconduits simplement parce que le président a été réélu. Par ailleurs, il y a certes assez peu d'élus Rassemblement National, mais visiblement, il semble se former une espèce d'alliance de la droite dure, on va dire. Éric Zemmour, le Rassemblement National, probablement un certain nombre d'élus toujours républicains qui vont franchir le Rubicon. Et ce qu'on peut appeler la gauche radicale derrière Jean-Luc Mélenchon. Enfin, moi, ce que je remarque, c'est qu'on n'a plus exactement, justement, 2 blocs gauche-droite, mais 3. Et donc, 3 qui ne communiquent pas du tout entre eux et qui ne pourront pas faire d'alliance ou de coalition. Enfin, voilà, ça semble difficile d'émerger avec une majorité claire, alors qu'il y a 3 forces à peu près équilibrées, au moins sur le papier.
Alors, voilà. Au moins sur le papier. Ce que vous dites est extrêmement important et extrêmement intéressant. Et je vais reprendre ce que je disais tout en vous répondant. À part le maréchal Pétain et Philippe Laval dans les conditions que l'on connaît, il n'y a jamais eu d'unification de l'extrême droite en France. C'est extrêmement compliqué. Le seul qui s'en est approché, c'est Jean-Marie Le Pen. Mais, même avec Jean-Marie Le Pen, on se souvient des fissions qui s'étaient produites au sein du Front National, avec, par exemple, M. Maigret.
Ouais.
Bon, aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où Mme Marine Le Pen, qui a pourtant porté les suffrages de l'extrême droite à leur plus haut niveau historique, est contestée par une certaine partie de l'ancien électorat du Front National qui s'est tourné vers M. Zemmour. Et ces deux parties, finalement, auraient effectivement raison de travailler en bonne intelligence, mais sur des points idéologiques, je pense que ça va être très, très compliqué. Parce que c'est des nuances d'extrême droite assez différentes. C'est des manières de concevoir la France assez différentes. Donc, je pense que ça va être très compliqué. Peut-être qu'ils pourront afficher une unité de façade pour les élections. Mais une fois les élections passées, cette unité va se disloquer. Ça, c'est le problème fondamental de l'extrême droite française. Donc, on peut douter, disons, de la représentativité et de l'aspect démocratique de l'élection des parlementaires en France. Ça, c'est une question, on peut la traiter, mais la réalité, c'est que sur le terrain, ça m'étonnerait très franchement que le Front National puisse passer. Du côté de la gauche, c'est pareil. Comment M. Mélenchon s'est déjà proposé, a déjà demandé aux Français de l'élire Premier ministre? Bon, alors cette proposition est intéressante, mais pareil, il se présente comme le père de l'Union populaire. Il ne s'agit pas de l'Union des gauches, il s'agit de l'Union populaire. Or, ça m'étonnerait qu'un Yannick Jadot soutienne un monsieur Mélenchon. Ça m'étonnerait qu'une madame Nathalie Arthaud soutienne un monsieur Mélenchon. Ça m'étonnerait encore plus qu'une Anne Hidalgo, avec la tradition du Parti socialiste, soutienne Mélenchon. Donc, à partir du moment où vous avez un paysage politique français divisé et fragmenté, forcément, c'est la force la moins désunie qui l'emporte. Et a priori, la force la moins désunie du moment, c'est La République en marche. Et ce qui est intéressant là-dedans du point de vue historique, c'est que avec ce paysage politique, on arrive à recréer de la troisième ou de la quatrième république dans la cinquième république. La cinquième république a été créée pour éviter l'instabilité parlementaire et ministérielle chronique. Alors l'instabilité ministérielle, on en est très loin, mais l'instabilité parlementaire, il se peut qu'elle frappe à notre porte. Donc là, vraiment, je n'ai pas de boule de cristal, mais on est dans une situation très intéressante, disons intellectuellement, mais probablement très préoccupante pour l'avenir de la Ve République.
Un dernier point, Monsieur Fatih, concernant la relation entre la France et l'Australie. Cette réélection d'Emmanuel Macron, est-ce qu'elle va y changer quelque chose ou c'est plutôt l'élection australienne et ce qui en résultera qui pourrait amorcer une reprise du dialogue ?
Alors, généralement, la politique diplomatique de la France est assez stable. Que l'on passe d'un candidat de gauche ou d'un candidat de droite, de M. Sarkozy à M. Hollande ou à M. Macron, d'ailleurs on a vu certains ministres continuer, hein, est assez stable. Je reprends ce qu'avait dit M. Le Drian lors de l'affaire des sous-marins, c'est que toute collaboration avec l'Australie est possible, toute la collaboration avec le gouvernement Morrison l'est beaucoup moins. Donc très clairement, c'est si la ligne politique à Paris est la même qu'elle l'était il y a quelques mois, très clairement ce qui va se passer, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement de gouvernement, puisque la France probablement va conserver un gouvernement de la République en marche. Donc à ce moment-là, il faut une évolution côté australien. Parce que cette relation qui existait, qui avait été construite de longue date, d'abord par le président François Hollande, puis par le président Emmanuel Macron, et par leurs homologues australiens, cette relation, malheureusement, a été abandonnée par le gouvernement Morrison dans les circonstances que l'on connaît, qui n'étaient très franchement ni très amicale, ni très diplomatique. Je vois mal la France oublier en si peu de mois ce Trafalgar diplomatique qu'elle a subi du fait de l'Australie, mais surtout du fait des États-Unis et de la Grande-Bretagne en réalité. Donc il faudra attendre les élections australiennes fédérales au mois de mai pour se projeter dans cette relation franco-australienne nouvelle.
Très bien. Ben, merci beaucoup, Romain Fatih, encore une fois, pour, comme d'habitude, vos lumières nous sont précieuses. Merci à vous.
Je vous remercie. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
À la fois si près, si loin des choses, aveuglés sur les écrans névroses, d'évidence on s'invente des vies qui s'opposent. Au cœur du cœur de la nuit, le jour, au cœur du cœur de ma vie, l'amour. Atome ultime dans un ultimatum, voilà l'homme.
SBS en français, c'est terminé pour aujourd'hui. On se quitte avec cette chanson de M, Mathieu Chédid, pour les intimes, un titre qui s'intitule « Rêvalité ». Notre prochain rendez-vous, ce sera jeudi à 13h précise. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi nous écouter en podcast sur toutes les bonnes plateformes audio, y compris celles probablement que vous utilisez. J'adresse également un grand merci à Martine qui m'a accompagné aujourd'hui techniquement sur cette émission. Je vous remercie bien sûr vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous souhaite par ailleurs une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.